Radio Starbeck.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
C'est Ramadan en ce moment, tout le monde achète. Et nous, on a seulement des tomates pour le premier repas. Tout le monde achète, mais moi je ne peux pas.
C'est en Cisjordanie que nous sommes étranglés par les difficultés économiques. L'autorité palestinienne n'a plus un sou, elle a divisé les salaires, suspendu les couvertures sociales au bord de l'implosion. L'autorité palestinienne, en ce Ramadan, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu au Japon, à Cuba et en Allemagne, 18h50, comme chaque mercredi, le cinéma en VO, un film guatémaltèque signé Jairo Bustamante sur le sort réservé aux gays dans ce pays. 18h55, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, qui veut prendre la défense de l'Iran. Et si l'Iran avait raison de nous mettre un bon coup de pression un an après les accords sur le nucléaire qui ont été rompus par Trump, on verra ça ensemble. En attendant, nous allons en Afrique du Sud, le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Une Afrique du Sud, donc, vous le savez, qui vote, élections législatives, élections régionales, des élections qui n'échapperont pas à l'ANC, c'est vrai, mais le vote n'échappe pas non plus à un désenchantement. L'ANC a un héritage qui pèse lourd en termes de mauvaise gestion, en termes de corruption, même si c'est peut-être la dernière chance, au fond, de ce parti et de son président, président du pays aussi, Cyril Ramaphosa. On va y venir dans un instant. Bonsoir Thierry Vircoulon.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. L'enjeu, au fond, c'est combien de voix l'ANC va perdre, encore un peu plus, qui va gagner, on le sait, mais qui à chaque fois descend en score en fait d'une élection à l'autre.
Oui, l'enjeu, c'est de savoir si l'ANC sera au-dessus ou en dessous de 60% des votes, puisque lors des élections de 2014, elle a fait 62% et que c'était le score qu'elle a eu lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en 1994. Donc, mais entre-temps, elle était montée jusqu'à 70%, donc elle est maintenant dans une dynamique de déclin. Ces élections vont confirmer l'ampleur de cette dynamique. Mais si les voix sont à 60% ou un peu plus, Cyril Ramaphosa pourra être content.
Est-ce qu'on vote encore pour l'ANC pour lui donner une dernière chance? Est-ce qu'on vote pour une sorte de fidélité, on va dire, une sorte de fidélité à Mandela, au fond, depuis 94? Est-ce qu'on vote pour dire à Cyril Ramaphosa, chiche, je te donne une chance, c'est peut-être la dernière? Pourquoi on vote toujours ANC, au fond, aujourd'hui en Afrique du Sud?
La signification du vote varie selon les électeurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a deux catégories de l'électorat traditionnel de l'ANC qui sont en train de s'en détacher. La première catégorie, c'est les jeunes, ce qu'on appelle les born free, donc la génération qui est née
après l'apartheid.
Qui, elle, a tendance à ne pas voter ANC, justement.
C'est le vieux monde, en quelque sorte, l'ANC, pour ces jeunes-là.
Oui, tout à fait. C'est un monde, et c'est des leaders qui sont au pouvoir depuis 1994 et qui ont vieilli au pouvoir. Et qui sont considérés comme responsables de la situation économique du pays. Et il y a une autre catégorie de personnes qui se détachent, d'électeurs qui se détachent de l'ANC, ce sont les classes moyennes noires, qui votent de moins en moins pour l'ANC, à la fois pour les problèmes à cause des multiples affaires de corruption qui ont entaché la présidence de Jacob Zuma, et aussi parce que en ce qui concerne la situation économique, ils ont aussi un certain mécontentement.
Alors on va venir effectivement aux autres partis notamment et à où se sont réfugiés d'une certaine façon ces électeurs-là. Un mot d'abord, si vous le voulez bien, Thierry Vircoulon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une photo de cette Afrique du Sud de 2019? Le chômage, 27%, c'est ça, c'est le chiffre. Corruption endémique, l'un des pays dont on dit qu'il est le plus inégalitaire, des services publics complètement à la traîne. Si on doit donner une photo de l'Afrique du Sud économique aujourd'hui, c'est quoi?
L'Afrique du Sud, c'est à la fois un mélange de progrès sociaux et de problèmes économiques. Je parle depuis 1994 et de l'évolution depuis que l'ANC est au pouvoir. Il y a eu, il faut pas oublier qu'il y a eu quand même pendant ces 25 années des progrès sociaux considérables. L'espérance de vie est passée de 54 à 65 ans. Le nombre de personnes, le taux d'alphabétisation de la population adulte est passé de 50% à 90%. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, tout ça a considérablement augmenté. L'accès à l'université aussi s'est massifié. Et donc, il y a toute une série de progrès sociaux qui sont à mettre au crédit de ces 25 dernières années. Mais en même temps, sur le plan économique, il y a beaucoup de problèmes. Le chômage dont vous avez parlé, qui est aussi entre 25 et 27% depuis maintenant le début du siècle. Donc, c'est un chômage de longue durée. Et aussi, évidemment, l'affaire du Gupta-Gate et le problème de corruption de l'ANC, que l'ANC pensait pouvoir circonscrire à Jacob Zuma, mais qui en fait concerne l'ensemble du parti et qui finalement nuisent considérablement à son image actuellement.
Avec une, vous l'avez un peu évoqué, une vraie classe moyenne noire aujourd'hui qui a émergé en fait des années post-apartheid, non ?
Oui, tout à fait. Il y a eu à la fois, l'ANC a mené pendant ces 25 années à la fois une combinaison d'une politique d'assistance sociale assez importante et de politique de discrimination positive. Alors donc, les personnes qui ont accès aux minima sociaux ont beaucoup augmenté et donc on a fait reculer la pauvreté. Et en même temps, il y a une classe moyenne qui a bénéficié de cette discrimination positive et qui est maintenant dans la population noire assez importante.
La marge de manœuvre pour remettre en marche l'ANC et donc le pays aussi de Cyril Ramaphosa, c'est quoi en fait au fond? Vous disiez effectivement que la corruption était endémique. On a cru un moment en enlevant Jacob Zuma qu'on avait enlevé le problème. En fait, vraisemblablement, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, est-ce qu'il a vraiment une marge de manœuvre, moyen de faire quelque chose dans une nouvelle ANC, on va dire, en étant là reconduit en tant que président?
Une nouvelle ANC, ça, je pense pas. Même s'il réalise un score au-dessus de 60%, ce qui serait très bien pour lui-même, le leadership du parti, il va pouvoir le changer, mais il va pas pouvoir le renouveler. Par conséquent, il va être après l'élection confronté à un grave problème parce que il y a eu 4 commissions d'enquête qui ont fait suite à la présidence Jacob Zuma. Elles sont en train de finaliser leurs conclusions. Et elles vont les déposer, elles doivent les déposer chez le procureur. Et donc évidemment, ça veut dire que normalement, il devrait y avoir un certain nombre d'enquêtes qui vont concerner des barons de l'ANC. Et par conséquent, ça risque de causer pas mal de tensions à l'intérieur du parti.
Mais est-ce que lui est vraiment vierge de tout soupçon et de toute corruption déjà? Est-ce qu'au moins ça existe ou pas?
Lui-même a une affaire, a eu un effet boomerang avec une des sociétés qui est au centre du système de corruption de l'ANC, qui est une société qui s'appelle Bossassa, qui il a été révélé qu'elle avait donné de nombreux pots de vin à des leaders de l'ANC pour avoir des marchés publics, et lui-même a bénéficié d'une donation en 2017 de cette société. Alors bon, il a pris la parole là-dessus, etc. Mais il y a une enquête à ce sujet. Et comme Bossassa est une société qui a assez largement alimenté les caisses du parti et des barons de l'ANC, c'est évidemment assez gênant.
Jusqu'à quel point, parce qu'on connaît l'histoire maintenant de Cyril Ramaphosa depuis l'année dernière, depuis février 2018 quand il a pris la succession de Jacob Zuma, on sait bien que c'était l'héritier naturel et puis que pour un tas de raisons finalement c'est pas lui qui a succédé à Mandela, mais il a jamais été tout à fait loin du pouvoir, tout en s'en éloignant et faisant sa vie d'homme d'affaires, ce qui l'a d'ailleurs rendu riche, mais jusqu'à quel point a-t-il été dans les arcanes de cette ANC et donc peut-il d'une manière ou d'une autre être éclaboussé par ce qui peut être révélé aujourd'hui? Ou est-ce qu'il s'est tenu très prudemment à l'écart, en fait?
Il a été écarté, comme vous le disiez, et puis après, il s'est tenu à l'écart, mais tout en s'assurant de pouvoir revenir dans la course à la présidentielle, parce que il y avait en effet l'idée que il allait dans le monde des affaires, mais pour faire un retour politique à un moment, quand il jugerait lui-même le moment opportun. Donc c'est un cadre, un des dirigeants de l'ANC. Il n'a jamais coupé les ponts avec le parti, etc. Et certains lui reprochent, notamment sur en ce qui concerne l'aile gauche de l'ANC, lui reprochent sa carrière dans les affaires, avec notamment l'affaire de Marie Cana, qui là aussi a pesé
un peu
sur son image.
C'est quoi l'affaire de Marie Cana,
pardon? C'était la répression très meurtrière par la police d'une grève de mineurs à Marie Cana, qui avait fait plusieurs dizaines de morts, et il était un des actionnaires de cette cette société et il avait pesé pour une intervention de la police.
Il est là depuis février 2018, ça fait un an donc, à peine un peu plus d'un an. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Est-ce qu'on voit quelque chose en fait? Est-ce que les électeurs peuvent se dire je peux avoir confiance dans ce monsieur parce que voilà, depuis un an en tout cas, les choses qui ont changé, ou est-ce que c'est invisible pour l'instant tout ça?
Non, c'est évidemment trop tôt. Il y a eu l'année dernière, surtout au début de cette année, il y a eu une grande polémique sur la Société Nationale d'Électricité, ESCOM, parce qu'il y a toujours un problème de déficit énergétique en Afrique du Sud. Et donc, il a dû monter au créneau pour mettre en avant un plan de restructuration d'ESCOM. Cette question du déficit énergétique qui hante l'économie sud-africaine depuis maintenant 10 ans, doit être résolue. Mais on voit bien que, ce cas d'ESCOM, je le cite, parce qu'il est symptomatique des contradictions dans lesquelles il va se trouver. Restructurer ESCOM, ça veut dire probablement licencier du monde. Évidemment, ça sera très impopulaire dans l'électorat de l'ANC. Donc, il a à la fois cette image de pro-business et en même temps, il doit tenir compte de l'insatisfaction grandissante des électeurs de l'ANC dont on parlait tout à l'heure.
Où en sont les tensions aujourd'hui, y compris les tensions raciales d'ailleurs, dans ce pays? Je vous pose la question parce qu'on a entendu Ramaphosa récemment dire aux Blancs « ne quittez pas le pays » tout en promettant aussi des terres aux Noirs les plus pauvres. Donc ces tensions-là, elles en sont où aujourd'hui?
Je crois qu'elles ont tendance à être surjouées parce qu'elles sont politisées. Notamment parce que l'ANC est attaqué, l'ANC est attaqué sur sa droite et sur sa gauche, mais le plus grand danger est sans doute sur sa gauche avec les Economic Freedom Fighters de Julius Malema qui jouent beaucoup la carte raciale dans la politique sud-africaine. Donc je pense que par rapport à la réalité des choses, cette carte est surjouée. Mais c'est vrai que la question que vous souleviez de la redistribution des terres est aussi l'exemple de ces contradictions dans lesquelles il se retrouve, où il faut qu'il maintienne la confiance des investisseurs et en même temps qu'il donne satisfaction à un électorat qui, comme je disais tout à l'heure, est en train de s'éroder.
Mouvement des combattants pour la liberté économique, comme vous dites, effectivement, la gauche radicale, EFF, qui a doublé son score déjà, qui attend là un gros score. Qui sont ces gens, en fait? En quoi l'électorat, c'est qui? Est-ce qu'on est plutôt là, pour le coup, dans cette fameuse génération dont vous parlez, celle post-apartheid, celle des plus jeunes?
C'est le parti des déçus de l'ANC, en fait. C'est le parti de Julius Malema, qui était le chef de la Ligue des jeunes de l'ANC, qui avait été expulsé à l'époque de Jacob Zuma, et qui a fondé son propre parti en développant un discours très, très à gauche, très radical sur le plan économique, et qui essaye en effet de ramasser les déçus de l'ANC, pas seulement les jeunes, mais aussi d'autres classes d'âge, et qui se retrouve un peu maintenant comme étant ayant un succès qui le dépasse sans doute un peu.
C'est-à-dire pas prêt, vous voulez dire avoir autant de, y compris de responsabilités, parce que j'imagine qu'il va y avoir des élus.
Oui, ils ont déjà eu un bon score aux dernières élections municipales et donc ils se sont retrouvés en position de gouverner dans des coalitions. Donc ça, c'est toute la difficulté pour un jeune parti. Mais en tout cas, ces idées économiques accentueraient la crise, si elles étaient mises en œuvre, accentueraient la crise économique en Afrique du Sud et nuiraient considérablement à la confiance des investisseurs.
Qu'est-ce qu'on dit de l'Alliance démocratique, donc l'autre parti d'opposition, dont j'ai lu moi qu'au fond, la disparition de Jacob Zuma ne jouait pas du tout en leur faveur parce qu'ils avaient tout misé sur tout contre Zuma, en fait?
Oui, tout à fait. Mais maintenant, leur discours qui était tout contre Zuma est devenu maintenant le discours de la lutte contre la corruption à l'intérieur de l'ANC. C'est un parti qui s'est considérablement africanisé et qui essaye de gagner justement l'électorat de la classe moyenne noire et de l'attirer à lui. Et donc,
c'est-à-dire que c'est considéré comme un parti blanc de toute façon, l'Alliance démocratique.
Historiquement, ça l'était. Après, si on regarde les chiffres dans le détail, ça a été devenu un parti métis puisque leur base, c'était le Cap, le Western Cape. Et puis maintenant, ils font des voix dans la classe moyenne noire. Et du coup, le Rauteng, ce qui est l'équivalent de l'Île-de-France en Afrique du Sud, il pourrait peut-être le remporter lors de cette élection.
Thierry Vircoulon, est-ce que c'est la dernière chance de l'ANC, au fond, avant une alternance qui pourrait avoir lieu ou pas? Est-ce qu'on dit que c'est l'élection de la dernière chance ou pas?
Je crois que c'est même pas l'élection de la dernière chance, parce que le déclin est inévitable. est inévitable. Comme je dis, c'est la question, c'est celle de la rapidité du déclin.
Donc c'est la fin, en fait.
Vous annoncez la fin de l'ANC. Le parti a été au pouvoir depuis 25 ans. Il est normal qu'il s'érode et que son capital politique commence à s'effilocher.
Les résultats viennent à quel moment, à peu près? À quel moment on saura ça?
Dans 2-3 jours maximum.
Allez, Thierry Bircoulon, merci beaucoup. Merci de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Cisjordanie ce soir, étouffée sous les difficultés économiques. L'autorité palestinienne est au bord de l'effondrement. C'est ce que nous racontera Étienne Monin sous les radars et Amélie Perrier, avec une crainte de pénurie de bière, figurez-vous, au Japon. Avant la Coupe du Monde de rugby, on va parler d'une autoroute électrique aussi qui est en Allemagne. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Avec un film guatémaltèque signé Jairo Bustamante.
Exactement. Après un premier film récompensé d'un ours d'argent à Berlin, il s'intéresse aujourd'hui à la situation des homosexuels au Guatemala. On suit l'histoire de Pablo, un père de famille qui fait son coming out. Il va vivre un enfer.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et si l'Iran avait raison alors de nous lancer un peu le pavé qu'elle nous lance?
Oui, sur l'accord sur le nucléaire, les Iraniens sont souvent présentés comme les méchants. Sur ce coup, leur attitude est peut-être logique et raisonnable.
Allez, à tout à l'heure. Le tour de la planète n'est pas fini, loin de là. Installez-vous, nous partons pour Los Angeles avec Nick Waterhouse, Song for Winners, sur France Inter. House, Song for Winners sur France Inter. Amélie Perrier, quand le micro est rouge et que c'est moi qui parle, il faut rien dire. Principe. Allez.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachival Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, l'Allemagne lance aujourd'hui une autoroute électrique. Là, vous pouvez parler.
e-autoroute. Peut-être l'avenir du transport routier plus propre. Un tronçon de l'A5 dans la région de SE a été équipé de caténaires, comme sur des voies de chemin de fer. Mais là, ce n'est pas pour le train, c'est pour les camions. Les semi-remorques vont être équipés, eux, de pantographes. Vous savez, c'est ces bras mécaniques rétractables hein, sur leur toit pour les relier aux caténaires et basculer du moteur thermique polluant vers un moteur électrique. Ce chauffeur a testé le dispositif. Surprenant, confie-t-il à Euronews.
C'était... Qu'est-ce qui s'est passé avec le moteur? Il s'est éteint. Et puis je me suis souvenu, oh non, il est censé s'éteindre. C'est vraiment impressionnant la première fois que tu conduis à l'électricité.
ELISA, c'est le joli nom de ce projet allemand développé par Siemens. Il est en phase de test sur un tronçon d'une dizaine de kilomètres. Un investissement de 15 millions d'euros de la part du gouvernement allemand.
Allez, l'histoire maintenant d'étudiants congolais expulsés de Cuba.
Oui, le régime castriste ne veut plus de 142 jeunes congolais. La Havane n'a pas apprécié qu'ils participent en mars à un mouvement de revendication assez violent, extrait d'une AG à la fac de médecine.
Le président congolais est le président le plus démuni, le plus honteux. Dans le monde entier. Ah ben oui. Votre gouvernement et vous-même, monsieur le président, vous voulez créer des rebelles.
Des rebelles, vous voulez créer des rebelles, des révolutionnaires. Donc ce mouvement, c'était pour demander au gouvernement congolais de verser les bourses aux étudiants. Car si l'État promet qu'il fait de ses formations à l'étranger une priorité, il ne paie plus les bourses à Cuba, mais aussi aux étudiants en Russie, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, la Havane ne veut plus de ces jeunes Africains pauvres et trop bruyants. 142 vont être expulsés sur les 2100 inscrits à Cuba. Expulsés sans diplôme, un déshonneur pour les familles et pour Brazzaville. Les noms des expulsés n'ont pas été publié encore, car le pouvoir espère encore arranger les choses, comme le dit le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoua au micro de RFI.
Chaque jour, nous continuons à négocier avec nos amis, nos partenaires de ce pays frère, Cuba, et de temps en temps, nous réussissons à avoir leur compréhension. Donc il est possible que demain matin, peut-être, nous puissions réussir à les convaincre de retirer de ces 142 2, 3, 4, 5, 6 noms.
Voilà, mais même si les étudiants ne sont pas expulsés, le problème est loin d'être réglé. Le Congo accuse des retards de paiement des bourses sur de nombreux mois, voire des années d'impayés.
Allez, en voilà d'autres qui ont peur de manquer. Ce sont les organisateurs du mondial de rugby au Japon.
Et eux, ils ont peur de manquer de bière, aliment essentiel du supporter de tout pays. Ouais, en 2015, oh, c'est un aliment hein, pour les supporters.
On peut mâcher aussi
ouais,
la bière.
Un aliment liquide, voilà. Un aliment très riche, hein, le Malte. Alors en 2015, lors de la dernière Coupe du Monde au Royaume-Uni, 2 millions de litres de bière avaient été engloutis. Les patrons de l'événement international lancent aujourd'hui un appel aux brasseurs très sérieux. Mobilisez-vous pour abreuver les fans assoiffés.
My team is your team.
François Pinard.
And I will wait with you. I am...
Je suis un spot Heineken, sponsor de l'événement. Heineken sera vendu dans les stades. Mais les marques japonaises aimeraient bien profiter aussi du rendez-vous pour marquer des essais. Kirin, Asahi, Suntory espèrent avoir l'occasion de se faire connaître dans le monde entier. Le mondial de rugby au Japon, on suivra ça. Ce sera du 20 septembre au 2 novembre.
Voilà, et votre appel à la boisson a été bien entendu, Amélie, bravo.
Ça ne m'étonne pas alcool, de vous. Hein, ouais. Sans alcool, voilà.
C'est ça, la fête est plus folle.
Voilà.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
São
Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
On a parlé de Gaza, évidemment, en début de semaine, dans Un jour dans le monde. Ce soir, c'est en Cisjordanie que nous emmène l'escale reportage en Cisjordanie, où le ramadan cette année se fait encore dans un contexte de crise. L'autorité palestinienne est en grande difficulté économique, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis deux mois, des mesures drastiques ont été prises pour éviter le naufrage. Salaire divisé, couverture sociale suspendue. L'ONU et l'Europe s'inquiètent d'un effondrement de l'autorité palestinienne. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, la crise est liée évidemment à un bras de fer avec Israël, elle fragilise encore plus une Palestine déjà bien mal en point, c'est ce qu'on va voir avec vous.
À droite du petit renfoncement qui sert de cage à deux oiseaux, on voit le symbole qui marque le dénuement dans la famille Djundi. À quelques pas des invités, le fils dort sous une épaisse couverture sur le canapé dans le salon. Il n'y a pas de place ici, pas d'argent et plus de couverture sociale. L'autorité palestinienne ne verse plus les allocations depuis décembre dernier. La mère de famille, Mouna Djundi, vit avec les 100 euros du programme alimentaire mondial.
On emprunte de l'argent pour acheter ce dont on a besoin et on essaie de rembourser quand on touche les allocations. Mais on ne sait jamais quand ça va arriver. En attendant, le programme alimentaire mondial est la seule source de revenus. C'est Ramadan en ce moment, tout le monde achète. Et nous, on a seulement des tomates pour le premier repas. Tout le monde achète, mais moi je ne peux pas. Ça me fait culpabiliser.
La crise est profonde, le gouvernement n'assume plus la protection des plus faibles, le programme alimentaire mondial risque de devenir malgré lui le dernier filet de protection sociale alors qu'il est lui-même en difficulté financière, explique Stephen Kearney, directeur en Palestine.
On peut être le dernier filet de protection, mais on ne souhaite pas l'être. L'autorité palestinienne est celle qui doit assurer cela. Nous, notre rôle, c'est d'aider l'autorité palestinienne. Mais les besoins sont tellement importants, les contraintes financières de l'autorité palestinienne sont telles que cela met beaucoup de pression sur le programme alimentaire mondial pour toucher le maximum de gens le plus longtemps possible. Actuellement, on a estimé les besoins à 66 millions de dollars par an. Pour l'instant, on a la moitié du montant, ce qui veut dire qu'on ne peut nourrir que la moitié des gens qu'on voudrait nourrir.
Derrière ce désengagement gouvernemental, il y a un nouvel affrontement politique avec l'État israélien. Depuis février maintenant, l'autorité palestinienne ne perçoit plus la TVA et les droits de douane palestiniens qui sont collectés par les Israéliens. Les dirigeants font en quelque sorte une grève des revenus pour protester contre une retenue à la source décidée par le Parlement israélien pour tenter d'empêcher le soutien financier aux familles des morts et des prisonniers palestiniens. Atef Abou Saïd est ministre palestinien de la culture.
Parce que Israël, disons, a volé ou a pris tout l'argent des prisonniers et a détourné une partie de l'argent, on refuse de recevoir un centime. Pour nous, c'est une question de dignité et de moralité. Il y a eu beaucoup d'offres pour trouver une solution, mais on les a toutes rejetées. Pour nous, Israël devrait rendre tout l'argent. Il n'y a pas d'autre solution.
Le manque à gagner pour l'autorité palestinienne est considérable. Il s'additionne au désengagement financier américain enclenché l'été dernier. Pour l'instant, cette crise fiscale n'est pas encore catastrophique, mais un compte à rebours a été enclenché. Les Palestiniens pourraient avoir du mal à tenir passé l'été. Il y a un risque de banqueroute à terme pour l'autorité palestinienne qui agite le spectre derrière du chaos sécuritaire. Pour autant, ce n'est pas une politique du suicide, estime Nour Odeh, ancienne porte-parole du Premier ministre.
Non, mais je crois que cela veut dire que l'autorité palestinienne a atteint la limite, qu'elle ne peut plus se plier à ça. On est dans une situation où Israël utilise l'argent des Palestiniens pour les faire chanter sur le plan politique, et l'autorité palestinienne colmate au lieu de rendre Israël responsable de tous les dommages. Donc ça n'est pas la première fois qu'Israël prend tout ou partie des taxes palestiniennes. Ce qui change, c'est que cette fois, l'autorité palestinienne a dit non.
En interne, ce combat redonne du crédit à la présidence palestinienne. Ce soutien aux prisonniers est l'un des derniers thèmes fédérateurs en Palestine. C'est une ligne rouge, dit Walid Aboulalaoué, fonctionnaire dont le salaire est amputé de moitié depuis 2 mois.
Ça, c'est la ligne rouge. On connaît nos classiques, on sait ce qui compte pour les Palestiniens. Et ça, les prisonniers, c'est considéré comme l'une de nos top priorités, une des plus importantes lignes rouges. Les familles de martyrs, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont sacrifié leur famille, les prisonniers qui sont en prison depuis si longtemps, il n'est pas envisageable de toucher un centime de leur revenu. Ils sont les figures de l'occupation.
Le mécanisme qui permet aujourd'hui aux Israéliens de peser sur les Palestiniens est un héritage des accords d'Oslo. Le protocole de Paris définit les relations économiques entre les deux parties. Il fait transiter les recettes fiscales et la TVA des Palestiniens par Israël. Cela représente 65% du budget palestinien et c'est aujourd'hui considéré comme une absence de souveraineté fiscale. Dans cette affaire, c'est l'ère post-Oslo qui se dessine. Hassan Khatib est politologue engagé dans la politique palestinienne.
Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis ne se sentent plus tenus par les accords d'Oslo. Les États-Unis défendent des idées et des positions qui entrent en complète contradiction avec les textes des accords qui ont été signés. Donc on est déjà dans une phase nouvelle et c'est pour cela qu'Israël essaye de changer la nature de l'autorité palestinienne. Il cherche à transformer une organisation orientée vers l'indépendance et la construction d'un État en une simple administration au service d'Israël.
Avec leur position radicale, les Palestiniens espèrent arracher une réforme du protocole de Paris. L'Europe cherche un compromis pour sortir de cette crise majeure. Même les Israéliens aujourd'hui semblent redouter un effondrement de l'autorité palestinienne.
Étienne Monin à Jérusalem pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Voici Feist sur France Inter. 1, 2, 3, 4. Ça se trouve, c'est son mot de passe. C'est pas une bonne idée. Sur France Inter, 1, 2, 3, 4. J'ai fait un bide considérable avec cette histoire de mot de passe. Tout à l'heure, ça me chagrine beaucoup. Allez.
3, 2, 1, Winter. France Inter. Movies are made of light. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action.
Le cinéma en VO et Corinne Pélissier. Corinne, avec un film qui nous emmène au Guatemala. Au Guatemala, où l'homosexualité, bien que légale, évidemment, n'est pas toujours bien tolérée, le réalisateur Jairo Bustamante, on a fait le sujet de son nouveau film, ça s'appelle Tremblement, c'est l'histoire d'un père de famille, il s'appelle Pablo, rejeté par les siens après son coming out. Bande annonce d'abord, on en parle après.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Anormal.
Yo.
Alors pour ceux qui s'en souviennent, le premier film s'appelait X-Canule, récompensé d'un ours d'argent à Berlin. Le film s'intéressait déjà au poids de la tradition dans la société guatémaltèque à travers l'histoire d'une jeune Maya. 4 ans plus tard, on est au fond un peu dans la même veine, Corinne, dans un pays où il ne fait pas bon s'affranchir des règles.
Hein. Et dans la famille de Pablo, le héros du film, la règle numéro 1, eh bien, c'est d'être un bon mari, un bon père de famille, même si ça veut dire tricher, mentir, comme les conseils son père lorsque la crise éclate et qu'il est amené à faire son coming out. L'homosexualité, bien que légale au Guatemala, est très mal acceptée. On le voit dans le film. Immédiatement, le rejet que cela peut susciter, la famille de Pablo va le bannir quasiment de chez lui, lui asséner les pires horreurs, le priver de ses enfants, il perdra même son travail. C'est une vision très sombre et pourtant très réaliste. Jairo Bustamante, pour ce film, s'est inspiré du parcours d'une vingtaine de personnes, une vingtaine de Pablo, comme il les appelle. Il les a suivis pendant 4 ans pour nous livrer non pas une histoire de coming out, mais un film qui parle avant tout d'oppression.
C'est vivre avec beaucoup de répression, c'est vivre avec la peur, c'est vivre aussi fragmenté parce que c'est pas considéré du tout, mais là vraiment du tout, comme quelque chose de normal chez un être humain, juste sa sexualité et je peux la mettre de côté. Ça fait partie des 300 insultes les plus graves. La plupart, jusqu'à maintenant, les gens qui avaient les moyens, quand ils se savaient homosexuels, ils quittaient le pays, comme au Brésil aujourd'hui. On est un pays qui discrimine, mais vraiment, on n'a pas de frein. Tout le monde discrimine, c'est comme ça, c'est une chaîne de discrimination terrifiante. Et pour moi, c'est le reflet d'une société complètement phallocratique et machiste et misogyne. On peut s'intéresser à l'autre par la charité, mais pas à la recherche de ses droits.
Et Corinne, ce qui est très bien fait de ce que vous nous racontez dans ce film, c'est qu'au début, on ne sait pas du tout ce qu'a fait cet homme, en fait, et pourquoi on l'accuse des pires horreurs. Donc on imagine qu'il a tué quelqu'un, voire qu'il a tué un enfant, et en fait non, donc il est persécuté juste parce qu'il est gay.
Et pire encore, son entourage va se mettre en tête de le guérir et de le faire changer en l'envoyant suivre une thérapie de conversion. C'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment dans le cinéma américain. On pense à des films comme « Come As You Are »,« Boys Are Raised », Jairo Bustamante s'attaque non sans zéro au versant évangélique qui est considéré comme une véritable force politique dans un pays où la population est croyante à 98%.
Au-delà du business d'essayer de soigner ou d'essayer de convaincre les homosexuels de ne pas pratiquer, parce que ça c'est juste ce qu'ils font, ils ont trouvé un autre marché de jeunes parents qui ont des enfants en bas âge. Et ça veut dire qu'aujourd'hui on leur vend des stages pour éviter l'homosexualité chez les enfants. Et il y a tout un marché de la culpabilité, parce que alors, si tu n'as pas suivi ça, il se peut que ton enfant soit homosexuel, et donc une abomination. Quelque part, j'ai un peu l'impression que la religion, maintenant au Guatemala, elle a un peu perdu de son obligation de guide spirituel pour devenir un règlement moral qu'il faut respecter avant tout, et que tout le monde utilise Dieu pour pouvoir juger l'autre.
Allez, ça sort donc ce mercredi.
C'est sorti mercredi dernier.
Autant pour moi, c'est sorti mercredi dernier, ça s'appelle Tremblement, et c'est signé du réalisateur guatémaltèque Jairo Bustamante. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc, l'Iran a donc annoncé ce matin vouloir suspendre une partie de ses engagements sur le nucléaire. Une annonce qui intervient un an pile après le retrait américain de cet accord. De prime abord, l'annonce iranienne inquiète, mais vous dites que du point de vue de Téhéran, elle se défend tout à fait et c'est votre monde à l'envers.
Je vais peut-être pas me faire que des amis, donc je vais prendre des précautions pour commencer. Évidemment que l'éventuelle reprise du programme nucléaire iranien, ce serait très préoccupant compte tenu de ce qu'est le régime des Mollahs et notamment de ses menaces répétées contre Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, même les pays européens qui sont assez modérés dans ce dossier ont exprimé leur inquiétude et brandi l'hypothèse de nouvelles sanctions contre Téhéran. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, regardons quand même en détail la décision iranienne. D'abord, c'est une riposte graduée, proportionnée, mesurée. Téhéran a le sentiment d'avoir fait preuve de beaucoup de patience pendant les 12 mois écoulés depuis le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord et la mise en place de nouvelles sanctions radicales. Ensuite, Téhéran se contente de menacer de suspendre une partie de l'accord si rien ne se passe d'ici 2 mois. En l'occurrence, donc, l'Iran cesserait de limiter ses réserves d'eau lourde, plafonnées à 130 tonnes, et d'uranium enrichi, plafonnées à 300 kilos. 2 mois, c'est donc une porte ouverte pour négocier. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit ce matin le président iranien Hassan Rouhani. Donc en fait, à l'instant où nous parlons, l'Iran reste dans les termes de l'accord international et n'a pas relancé ses centrifugeuses.
Sauf que, Jean-Marc, c'est quand même un acte de défiance.
Oui, mais vu de Téhéran, si vous voulez, il est impossible aujourd'hui de faire moins parce que la situation, elle est devenue intenable. Les Iraniens n'ont ni le beurre, ni l'argent du beurre. Ils sont perdants sur tous les tableaux. Je m'explique. D'un côté, ils respectent leur partie du contrat, l'accord international visant à limiter leur production nucléaire. Pas moi qui le dis, hein, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a quand même de l'ordre de 120 à 150 inspecteurs sur place. Mais en face, les Iraniens n'ont rien en retour, puisque sous la pression de Washington, les sanctions commerciales sont revenues depuis un an, et elles vont encore s'accroître à partir de maintenant, avec la fin des exemptions qui avaient été accordées par Washington à certains pays, comme la Chine, l'Inde, la Turquie. Et l'économie iranienne, bah, entre-temps, elle est devenue exsangue. En récession, moins 4% l'an dernier, moins 6% prévu cette année. Les exportations de pétrole ont chuté de moitié, même de plus de moitié. L'inflation atteint 30%. La monnaie nationale, le rial, est en chute libre. La viande est rationnée, etc. Ils trouvent même plus de pistaches. Certains, ils peuvent plus s'en acheter. Vous vous rendez compte, en Iran, c'est pas rien. Politiquement, pour le pouvoir iranien, c'est donc perdant, perdant. Il n'y a pas d'autre choix que de hausser le ton.
Mais alors, question, pourquoi s'attaquer aux Européens qui sont finalement beaucoup plus conciliants que les Américains?
Oui, c'est vrai que le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, affirme que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont, je cite, « rempli aucune de leurs obligations ». Le problème, c'est que, ben, pour faire court, il a raison. Il y a un an, les gouvernements européens s'étaient insurgés contre la décision américaine et son interventionnisme, puisqu'en substance, Washington veut empêcher toute transaction commerciale avec l'Iran, d'où qu'elle vienne. Et l'Europe avait alors laissé entendre qu'elle allait trouver une parade pour maintenir les échanges commerciaux en les libellant en euros ou avec un système bancaire de crédit virtuel. Et un an après, où en sommes-nous? Ben, pas bien loin. Un outil financier a bien été créé, Instex, mais il n'est pas vraiment opérationnel et il ne semble pouvoir concerner que des sommes assez modestes, quelques dizaines de millions d'euros, là où le manque à gagner pour l'économie iranienne se chiffre plutôt en milliards d'euros. Et quant aux grandes entreprises européennes, Total, Siemens, Renault, etc., elles ont toutes plié bagages d'Iran devant les menaces de représailles américaines. Donc c'est vrai, l'Europe n'a pas tenu ses promesses.
Donc en attendant le résultat des courses, c'est quand même le risque d'un conflit qui augmente.
Ça, pour le coup, c'est certain, mais c'est peut-être le but recherché par les États-Unis en poussant le pouvoir iranien dans ses retranchements. L'Amérique de Trump, on le sait, veut se désengager de tous les théâtres d'opérations dans le monde, sauf face à l'Iran, qui reste perçu comme l'ennemi numéro un. D'ailleurs, Washington vient de renforcer, on le sait, son dispositif militaire dans la région en envoyant un porte-avions et des bombardiers. Donc oui, ça peut être le début d'un engrenage dangereux, sans doute pas avec une guerre directe d'ailleurs, mais plutôt indirecte, par proxy, comme on dit en américain, en anglais, en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban, ou en mer, dans le golfe Persique, sur le détroit d'Ormuz, par où transite quand même un quart à peu près du trafic pétrolier mondial. Mais c'est pas l'annonce iranienne de ce matin qui a déclenché cet engrenage, c'est plutôt la décision américaine d'il y a un an.
Et on en reparle d'ailleurs tout à l'heure de cette décision-là, de cette lettre-là aussi des Iraniens dans le journal de 19h de Sébastien Paour. Jean-Marc Four, merci beaucoup, on se retrouve demain évidemment, le 18-20. La suite, c'est donc le journal et aussi le téléphone sonne à tout de suite.